messieurs, bonjour à tous. Très heureux de vous présenter ce 17e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui revient sur l'actualité sportive de la semaine. Au sommaire, Clément nous parlera de la grosse performance des frères Lebrun au championnat de France à Montpellier. Paul reviendra sur ce match fou entre le Stade Toulousain et l'UBB. Bastien nous présentera les brèves. Théo Martin nous parlera du fiège et de la deuxième place remportée par l'école de journalisme de Toulouse. Et puis le débat portera cette semaine entre Tim et PA sur la liste de Thierry Henry aux Jeux Olympiques. Et on terminera par notre traditionnel quiz de la semaine. On espère que vous avez bien révisé. On s'attendait à un gros duel entre les frères Lebrun et ça n'a pas déçu, Clément.
C'était l'image forte de ce week-end sur les réseaux sociaux. Alexis Lebrun qui célèbre debout sur la table après sa victoire face à son petit frère Félix en larmes. Les deux prodiges du tennis de table s'affrontaient en finale des championnats de France ce dimanche et ça a encore tourné à l'avantage de l'aîné. Pourtant classé 5e mondial à 17 ans, Félix n'y arrive pas face à son grand frère Alexis et il s'est incliné pour la 4e fois en autant de rencontres officielles. Classé 22e mondial, Alexis Lebrun a donc décroché son 3e titre national en individuel à seulement 20 ans, un titre qui échappe donc toujours à Félix malgré son statut. Et il faut dire que le petit frère avait livré une très grosse bataille en demi-finale. Face à son coéquipier en équipe de France Simon Gauzy, le prodige du ping a dû aller jusqu'au 7e set avant de l'emporter. Mais en finale, la pression était trop pesante sur les épaules du petit champion.
Et oui, parce qu'à Montpellier, il n'y en avait que pour les Lebrun.
Le FDI Stadium n'avait Dieu que pour les deux phénomènes. Habituellement sous les 2000 spectateurs, la moyenne de ce championnat de France dépassait les 3000. Un engouement lié aux deux frères, en vogue à quelques mois des Jeux et à la médiatisation grandissante de ce sport. Dans leur ville de Montpellier, c'était bien eux les stars. Les Lebrun ont été sollicités durant tout le week-end pour des photos et des autographes. Et après leur sacre en double samedi pour leur premier tournoi ensemble, les attentes étaient au plus haut pour les fans, non licenciés pour la plupart. C'était peut-être un peu trop pour Félix Lebrun, qui a avoué, la voix tremblotante, avoir vécu l'un des matchs les plus difficiles en termes d'émotion, les larmes aux yeux entre chaque set.
En tout cas, ces championnats de France étaient une affaire de famille.
On l'a dit, les frères Lebrun étaient comme à la maison. À quelques pas de leur club, les deux frangins étaient bien entourés. Le père comme entraîneur, la mère à l'accueil, les sœurs à l'organisation et la grand-mère aux accréditations. Bref, toute la famille était au rendez-vous. Mais chez les filles aussi, on a assisté à une finale fratricide. Après avoir éliminé la favorite Pritika Pavadé, Camille Lutz, 21 ans, a été sacrée en battant sa sœur Charlotte, 18 ans, en finale, 4-7 à 1. Une première chez les femmes. Et même si elle avouait avoir du mal à se détacher du fait qu'elle soit sa sœur, la championne n'a pas tremblé pour défaire sa cadette, déjà médaillée d'argent l'an dernier. Cerise sur le gâteau, Camille Lutz repart aussi avec l'or en double mixte avec Bastien Rambert.
Merci Clément, on a hâte de revoir tout ce beau monde aux Jeux Olympiques. On passe tout de suite au Réjournal avec Paul. Le Stade Toulousain se déplaçait à Bordeaux hier soir en clôture de la 19e journée du top 14 pour un match qui sentait la poudre face à l'UBB, Paul.
Oui Enzo, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on n'a pas été déçus. En même temps il faut dire qu'on n'était pas hyper inquiet avec sur la feuille une quinzaine d'internationaux bleus fraîchement revenus du tournoi. Entre le retour de la ligne arrière galactique des Bordelais d'un côté et la densité du pack rouge et noir de l'autre, mais aussi celui d'Antoine Dupont, disponible en club après sa première escapade réussie avec l'équipe de France à 7, et de Romain Ntamack, présent comme 24e homme, qui pourrait postuler pour l'8e de finale de Champions Cup face au Racing dans 15 jours. Tout ça pour dire qu'un vrai parfum de phase finale se faisait ressentir au Batmut Atlantique, entre habituels des Girondins de Bordeaux, qui accueillera les demi-finales en juin prochain.
Mais ce sont bien les Bordelais qui prennent le meilleur départ.
Oui, et malgré le forfait de dernière minute de Louis Biel-Biarré, malade, les Bleus de l'UBB mettent le feu en début de match. Derrière un pack conquérant, on retrouve une charnière Lucu Jalibert bien plus à l'aise qu'en équipe de France, des sorties rapides et un jeu retrouvé face à des Toulousains cueillis à froid. Ça fait rapidement 17-0 pour les Girondins grâce à des essais de Moefana, Penaud et Buros, et même 24-7 à la pause. Même Antoine Dupont, entré plus rapidement que prévu dès la 4e minute après la blessure de Thomas Ramos, peine à peser sur le jeu tant les rouges et noirs sont dominés.
Et malgré cette domination, Paul, les champions de France n'ont jamais rien lâché comme à leur habitude.
Dans le sillage du meilleur joueur du monde, intenable dans le second acte, les Haut-Garonnais sont revenus avec d'autres intentions. Antoine Dupont a porté le ballon à 27 reprises dimanche soir, le meilleur total sur un match de top 14 pour un joueur des lignes arrière depuis la saison 2010-2011. Alors si certains avaient des doutes sur sa capacité à jongler entre les deux sports, soyez rassurés, Super Toto n'est vraiment pas fait du même bois que les autres. En 10 minutes, Toulouse renverse renverse la rencontre et prend l'avantage pour la première fois. Gros coup sur la tête des Bordelais qui maîtrisaient leur sujet, mais les hommes de Yannick Bru sont parvenus à remettre un dernier coup de collier pour aller chercher la victoire dans une ambiance de folie. Un match spectaculaire dans lequel les tenants du titre ont trop donné en première période.
Il va maintenant vite falloir basculer à l'approche de la Coupe d'Europe.
Oui, alors il n'y a pas le feu chez les champions de France en titre, mais ça fait tout de même deux défaites consécutives après le revers à Perpignan. Les stadistes laissent les Parisiens seuls en tête du top 14 et Hugo Mola et son staff vont surtout devoir composer avec une infirmerie de plus en plus garnie. Blair Kinghorn, Ange Capozzo, maintenant Thomas Ramos. On espère sûrement une soirée plus tranquille samedi lors de la réception de la section paloise à Ernest Vallon avant de basculer sur la Champions Cup et l'8e face au Racing, toujours à domicile. Parce qu'on le sait, à Toulouse, il y a toujours une odeur particulière à l'approche du printemps européen.
Merci Paul pour ce Rijournal, on passe tout de suite au bref. Et pour nous résumer l'actualité en bref de la semaine, on accueille Bastien. Salut Bastien.
Salut Enzo, salut à toutes et à tous. Pour la première fois depuis 7 ans, Griezmann n'était pas là et les Bleus se sont inclinés. Défaite 2-0 face à l'Allemagne samedi en amical à Lyon. 7 secondes, c'est le temps qu'il a fallu aux hommes de Didier Deschamps pour encaisser le premier but du match, avant de voir le score s'aggraver après la pause. Des Bleus méconnaissables, pas franchement rassurants à 3 mois de l'Euro. À l'heure où on tourne cet épisode, la France a l'occasion de se relancer puisqu'elle affronte le Chili. En rugby, entrée en lice réussie pour les Bleus dans le tournoi des 6 nations féminin. Victoire 38-17 contre l'Irlande samedi dernier au Mans. En prime, le bonus offensif. Les joueuses de Gaël Mignot et David Ortiz affronteront l'Écosse ce week-end à Édimbourg. Enfin, la consécration pour Chloé Trespech. À 29 ans, la snowboardeuse française remporte le globe de cristal, le premier de sa carrière. Un titre acquis lors de l'ultime étape de Coupe du Monde de snowboard cross qui s'est déroulée ce week-end au Canada. La Savoyarde est seulement la troisième française de l'histoire à décrocher le Graal après Karine Ruby et Nelly Moine-Locoz. Le bronze pour Adam Siao Impfa aux mondiaux de patinage artistique à Montréal, médaille qui paraissait inatteignable après le programme court de mercredi, mais le français a réalisé une superbe remontée sur le programme libre. Au total, 16 places gagnées, résultat une première médaille française chez les hommes depuis Brian Joubert en 2010. Il termine derrière le japonais Yuma Kagiyama et l'américain Ilya Malinin, titré à 19 ans. Et puis enfin en Formule 1, doublé Ferrari à Melbourne, Carlos Sainz remporte le Grand Prix d'Australie devant son coéquipier Charles Leclerc. L'Espagnol signe un retour fracassant 2 semaines après son opération de l'appendicite. La Scuderia a profité de l'abandon de Max Verstappen, victime d'un problème mécanique en début de course. Le pilote McLaren Lando Norris complète le podium. C'est tout pour l'actualité de la semaine passée. Enzo, je te repasse la main.
C'est tout frais, l'émotion est encore là. Et pour cette carte blanche, mon cher Théo, tu vas nous faire un petit débrief de ce Fiège 2024.
On l'attendait tant, on s'est entraîné toute l'année pour, et c'est déjà fini. Ce week-end, on est parti du côté de Grenoble pour le Fiège 2024, le tournoi de football inter-école de journalisme. Alors, on ramène une belle deuxième place, à 10 points seulement derrière le grand gagnant canois. Et finalement, avec un peu de recul, c'est une deuxième place hyper intéressante. Déjà, l'année prochaine, on n'aura pas le poids de l'organisation. En plus, on va garder exactement les mêmes équipes qu'on va renforcer avec les futures premières années. Donc, on ne peut que progresser et faire mieux en 2025.
Alors toi, Théo, hein, tu as un profil un peu particulier puisque tu étais à la fois entraîneur des filles et joueur. Et est-ce que tu peux nous parler de ce rôle-là ?
Alors, je vais commencer par celui de joueur. Ça fait 13 ans que je joue en club et franchement, je n'ai jamais vécu un truc pareil. Les chants, les fumigènes, les bandasses et tous ces gens qui t'encouragent, c'est un truc de fou. Au niveau des sensations, c'est du jamais vu et ça donne envie de le revivre chaque année. Parlons un peu de performance maintenant. On a accroché une demi-finale avec les gars, on a galéré inutilement en poule. Je pense qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, étant donné le nombre de premières années qu'il y avait dans l'équipe. On a mis 2 matchs pour découvrir le tournoi et on s'est qualifié comme ça, grâce à la victoire de Lannion sur le Cuège. Ensuite, en quart de finale contre l'IFP, honnêtement, c'était offert. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd et on a accédé à la demi-finale. Et là, l'ESJ, tenant du titre, c'est un match qu'on devait gagner. On perd sur un contre son camp un peu malheureux, on peine à marquer, dommage. Mais voilà, ce sont des apprentissages pour l'année prochaine. Chacun sait ce qu'il a à faire pour aller plus loin. Le niveau est là, maintenant c'est dans la tête si on veut gagner.
Alors là, tu viens de nous faire le petit débrief pour l'équipe masculine, mais qu'en est-il pour l'équipe féminine ?
Ah, les filles. Là, on peut parler d'émotion. Franchement, j'ai cru que j'allais m'effondrer quand elles ont perdu. Pas à cause de la défaite, mais voir ces filles, qui pour la plupart n'en ont rien à faire du foot normalement, pleurer parce qu'elles sont éliminées, ça c'était dur. Le siège, c'est pas juste un week-end, c'est une aventure. Une aventure qui va durer 3 ans. Alors maintenant, revenons un peu sur l'édition 2024. Premier match très compliqué, on prend un but sur l'engagement, frappe de loin, poussée par le vent, avec une Camille qui n'a pas vraiment compris ce qui lui arrivait, la pauvre. Les filles étaient perdues et n'ont pas joué, elles étaient complètement paniquées, donc on prend 3-0. Heureusement, elles se sont rattrapées face au QEG sur le deuxième match. Victoire 2-0 avec des buts de Marie et Agnès, donc là, on file en quart. Objectif atteint, on fait mieux que l'année dernière. Puis donc vient ce fameux quart de finale qui est encore là, en travers de ma gorge. On domine, on pousse, mais on ne réussit jamais à marquer. Puis la dure loi des tirs au but nous a éliminés du tournoi. Franchement, j'ai les boules parce que je suis sûr et certain qu'elle aurait gagné ce tournoi. Mais je suis tellement fier d'elle, je le redis, voir des filles qui s'en foutent du foot se donner autant, c'est trop beau. Et je vous le dis, en 2025, personne ne les arrêtera. Cannes, préparez-vous, le JT n'en a pas fini avec le tiège.
Et oui, mon cher Théo, et je tiens aussi à remercier les supporters parce que Toulouse est sur la carte et c'est aussi grâce à eux. Alors, dernier petit message pour nos amis cannois, prenez bien soin du blaireau parce qu'on veut qu'il soit en bon état le jour où on viendra le chercher. J'accueille maintenant Timothée et PA pour le débat de la semaine. Salut PA, salut Timothée, j'ai l'honneur de vous accueillir pour ce petit débat. Messieurs, on va parler Jeux Olympiques. L'équipe de France Olympique de foot doit choisir 3 joueurs de plus de 23 ans, donc nés avant 2001. Alors ça s'annonce comme un casse-tête entre ceux absents après l'Euro, ceux retenus par les clubs et ceux entre qui il faudra malgré tout faire un choix. Alors on s'est demandé, quels seraient les 3 joueurs supplémentaires de votre équipe de France Olympique ? PA, je te laisse la parole.
Alors tout d'abord, le premier joueur que je sélectionne est très expérimenté, et c'est Karim Benzema. À vrai dire, quand il fallait imaginer les 3 potentiels joueurs de gros calibre pour accompagner l'EDF olympique, personne n'avait trop pensé à lui. Alors à l'inverse des noms les plus cités, que sont Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, c'est Karim Benzema qui est apparu au détour d'une conférence de presse de Didier Deschamps le lundi à Clairefontaine, quand un journaliste lui a demandé si Karim Benzema pouvait postuler à une place au JO. Deschamps confie: s'ils ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas ? L'objectif, c'est d'avoir la meilleure équipe. Ils peuvent être candidats comme beaucoup. Fin de citation. Alors au moins, ce dont on peut être quasiment sûr, c'est que la nature des relations avec Benzema ne sont pas aussi tendues avec Henry qu'avec Deschamps. Pour mon deuxième joueur, j'appelle à la barre Raphaël Varane. Alors l'ancien défenseur de la Castilla reste à un bon niveau. Il est déjà paru à 19 reprises cette saison sous les couleurs de Man U. Il a marqué un but lors de la deuxième journée de Première Ligue pour sauver les Red Devils d'une situation compliquée. Il reste aussi expérimenté, on se souvient qu'il avait su prendre pleinement le rôle de leader de la défense en 2018, quand le capitaine Koscielny avait déclaré forfait. Je le verrai bien pour épauler Saliba et compléter la charnière. Et puis enfin, le dernier que j'appelle, c'est Adrien Rabiot. Alors, à l'instar de ses coéquipiers en équipe de France A, le milieu défensif de la Juventus Turin aimerait pouvoir disputer les JO avec l'équipe de France Olympique. Le club où évolue Adrien Rabiot ne s'est pas encore positionné sur une éventuelle convocation de certains de ses joueurs pour les JO. On sait que d'autres clubs l'ont fait, comme le Real, ce qui empêcherait des joueurs comme Camavinga de jouer. Il confie d'ailleurs: « Si ça devait arriver, je ne le suis pas le seul à décider. C'est assez compliqué étant donné que ça ne tombe pas sur les dates FIFA. Bien sûr que ce serait un plaisir, un honneur même d'y participer. » Fin de citation. Un joueur expérimenté au milieu qui a connu les plus grands rendez-vous, qu'ils soient européens ou internationaux, et sur qui Titi Henry pourra sûrement compter.
Alors PA, tu nous as exposé de très grands noms du football français. Timothée, tu vas faire de même, mais tu as décidé d'opter pour un schéma plus en profondeur sur l'équipe de France de Thierry Henry.
Ouais, moi j'opterais plutôt sur un choix que j'appellerais de complément. Et donc je voudrais revenir sur 3 points qui sont à mon sens complètement indispensables. C'est qu'il faut allier à la fois des indiscutables de l'équipe de France et des joueurs qui doivent occuper des postes qui sont désertés, on va dire, chez les jeunes. On n'a pas besoin de 3 offensifs quand on voit le vivier, même si on peut le trouver un peu surcoté parfois chez les jeunes. On n'a pas besoin de 3 offensifs à amener de l'équipe de France. Ensuite, il faut se rappeler que parmi les internationaux A, on a beaucoup de défenseurs qui, déjà, n'ont pas besoin d'être sélectionnés parmi les 3, je pense à Saliba, Loukeba, Gusto, parce qu'ils sont déjà nés après 2001 et que donc il n'y a pas de nécessité absolument à les appeler. Ensuite, l'idée pour Thierry Henry, c'est aussi de pouvoir incorporer les trois joueurs de plus de 23 ans facilement dans son système, que ce soit un 4-3-3, un 4-2-3-1 ou un 4-4 de losange avec lequel il joue aujourd'hui avec peu de résultats, il faut le dire. Donc dans l'idée, il faut quand même que les trois joueurs qu'on sélectionnerait puissent répondre, à mon avis, à ces critères-là pour intégrer la liste. Alors malgré tout ce que j'ai dit, le fait qu'on ne prendrait pas des offensifs, je pense que prendre Antoine Griezmann, c'est une nécessité. C'est le cœur, c'est le joueur indispensable, c'est la représentation de l'équipe de France. Et pour des Jeux à Paris, c'est l'idéal. Faire des JO sans lui, ça ferait tâche. Quand on a 127 sélections, 44 buts, c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Et même si l'Atlético ne veut pas le libérer, ils auraient tort de ne pas le faire. Et ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un consensus à trouver? Je pense que si. Le deuxième joueur que je prendrais, ce serait Théo Hernandez. Parce qu'à gauche, en latéral gauche, on risque d'être limité. Nos deux latéraux gauches pour la campagne des U23, c'est Bradley Loco et Adrien Truffert. Je pense que c'est le poste où on est le plus en souffrance. Et Théo Hernandez, c'est une référence mondiale du poste. Ensuite, mon troisième joueur, je pense que ce serait Ibrahima Konaté. Parce que, mine de rien, on est limité au poste de défenseur central. Alors, on va avoir Loukeba, on va avoir William Saliba. Mais enfin, c'est nos deux grands centraux de vrai talent. Et je pense que Ibrahima Konaté, le central de Liverpool, il ne nous fera certainement pas de mal et il nous fera même beaucoup de bien pour apporter de la solidité défensive à une équipe qui prend un nombre considérable de buts.
Alors vous êtes allés en profondeur dans ce débat, messieurs, ça fera plaisir aux puristes de football. En tout cas, je vous remercie et on espère qu'une chose, c'est que l'équipe de France de football de Thierry Henry nous ramène l'or à Paris. C'est l'heure tout de suite de notre quiz traditionnel de la semaine.
Ah oui, la concurrence. Qui est meilleur? Qui est meilleur?
C'était meilleur.
Ah, si il est un peu répond parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle.
Alors pour ce quiz, j'ai deux duos de choc. À ma gauche, Timothée et PA, vous êtes prêts les gars?
Oui. On est prêts.
Et à ma droite, un duo 100% football, 100% terroir, Théo Martin, Clément Bernet.
On va les tuer.
Les fumer même.
Alors, on est parti pour la première question de ce quiz. Sur quel score se sont imposés les Bordelais face au Stade Toulousain?
31-28.
C'est une bonne réponse de Clément Bernet. 31-28, l'UBB qui a fait la bonne opération du week-end en prenant la troisième place, tandis que le Stade Toulousain reste deuxième. Pouvez-vous me donner la seconde à laquelle l'Allemagne a ouvert le score face à la France?
La septième.
Septième seconde. On apprécie quand même le fait que Timothée ait attendu la fin de la question pour répondre.
Il a attendu la fin. Je suis fair play.
Florian Wirtz.
Exactement, Florian Wirtz qui a marqué à la 7ème seconde avec une victoire de la Mannschaft 2-0. Troisième question, on rappelle les scores, ça fait 1-1. Quel arbitre de rugby a annoncé prendre sa retraite à la fin de la saison?
Ben O'Keefe?
Non.
Romain Poit?
Non, il est français.
Ah, Mathieu Reynal?
C'est Mathieu Reynal, PA 2-1 pour PA et Timothée, l'arbitre international français Mathieu Reynal qui va arrêter sa fin de carrière juste avant son anniversaire, avant ses 43 ans. 2-1 pour PA et Timothée. Alors, donnez-moi les trois prochains Grands Prix de F1 dans l'ordre, s'il vous plaît.
Espagne, Monaco, Canada?
Non.
Ah, il en manque un. Canada, Monaco, Espagne?
Non, il n'y a pas Abu Dhabi, il n'y a pas Monaco, il n'y a pas l'Espagne.
Il y a l'Azerbaïdjan qui doit intervenir quelque part.
Las Vegas.
Non. Est-ce qu'il n'y a pas la Chine?
Mexique?
Non. Est-ce qu'il n'y a pas la
Dallas.
Chine?
Dallas.
Il y a la Austin. Chine. On ne va pas les faire dans l'ordre. Celui qui m'en donne 2 sur 3 a gagné. La Chine,
Texas.
Ici à gauche.
Okay. Le Brésil, la Chine, le Canada.
La Californie.
Pour l'instant, il n'y en a qu'un du côté de Chine.
Le Japon, Singapour.
Ici, il y a le Japon, celui qui me trouve le troisième. Donc Clément vient de me donner le Japon, Timothée m'a donné la Chine. Celui qui trouve le troisième.
La Malaisie.
Azerbaïdjan?
Non.
Bahreïn.
C'est sur le continent américain.
Miami,
Timothée.
Très bonne chance.
Timothée, bien joué, Timothée. Si on récapitule et qu'on le fait dans l'ordre, dans les Grands Prix de F1, le Japon le 7 avril, la Chine le 21 et Miami le 5 mai. Ça fait 3-1 pour l'équipe de Timothée et PA. Et c'est une victoire, bien évidemment, de Timothée et PA. Bravo, messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était un plaisir d'avoir animé ce 17e épisode de JT Sport. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Et on se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, vive le sport.